Jules Barbet de Rivilly, Les Diaboliques, un dîner daté. Le jour tombait depuis quelques instants dans les rues de la ville de... Mais dans l'église de cette petite et expressive ville de l'Ouest, la nuit était tout à fait venue. La nuit avance presque toujours dans les églises. Elle y descend plus vite que partout ailleurs, soit à cause des reflets sombres des vitraux, quand il y a des vitraux, soit à cause de l'entrecroisement des piliers, si souvent comparés aux arbres des forêts et aux ombres portées par les voûtes. Cette nuit des églises, qui devance un peu la mort définitive du jour au dehors, n'en fait guère nulle part fermer les portes. Généralement, elles restent ouvertes. L'Angélus sonnait. Et même quelquefois très tard, la veille des grandes fêtes par exemple, dans les villes dévotes où l'on se confesse en grand nombre pour les communions du lendemain. Jamais, à aucune heure de la journée, les églises de province ne sont plus hantées par ceux qui les fréquentent qu'à cette heure vespérale, où les travaux cessent, où la lumière agonise, et où l'âme chrétienne se prépare à la nuit qui ressemble à la mort, et laquelle la mort peut venir. À cette heure-là, on sent vraiment très bien que la religion chrétienne est la fille des catacombes et qu'elle a toujours quelque chose en elle des mélancolies de son berceau. C'est à ce moment, en effet, que ceux qui croient encore à la prière aiment à venir s'agenouiller, s'accouder, le front dans leurs mains, en ces nuits mystérieuses des nefs vides, qui répondent certainement aux plus profonds besoins de l'âme humaine, car si pour nous autres mondains et passionnés, le tête-à-tête en cachette avec la femme aimée nous paraît plus intime et plus troublant dans les ténèbres, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les âmes religieuses avec Dieu quand il fait noir devant ses tabernacles et qu'elle lui parle de bouche à oreille dans l'obscurité? Or, c'est ainsi qu'elle semblait lui parler dans l'église de, ce jour-là, les âmes pieuses qui y étaient venues faire leur prière du soir, selon leur coutume. Quoique dans la ville, grise d'un crépuscule brumeux d'automne, les réverbères ne fussent pas encore allumés, ni la petite lampe grillagée de la statue de la Vierge, qu'on voyait à la façade de l'hôtel des Dames de la Varangerie, et qui n'y est plus à présent, il y avait plus de 2 heures que les vêpres étaient finies, car c'était dimanche ce jour-là, et le nuage d'encens qui forme longtemps un dais bleuâtre dans l'en haut des voûtes du chœur après les offices s'y était évaporé. La nuit, épaisse déjà dans l'église, y étalait sa grande draperie d'ombre qui semblait comme un voile tombant d'un mât déferlé des cintres. 2 maigres cierges, perchés au tournant de 2 piliers de la nef, assez éloignés l'un de l'autre, et la lampe du sanctuaire, piquant sa petite étoile immobile dans le noir du chœur, plus profond que tout ce qui était noir alentour, faisait ramper sur les ténèbres qui noyaient la nef et les bas-côtés une lueur fantomale plutôt qu'une lumière. À cette filtration de clarté incertaine, il était possible de se voir douteusement et confusément, mais il était impossible de se reconnaître. On apercevait bien, ici et là, dans les ténombres, des groupes plus opaques que les fonds sur lesquels ils se détachaient vaguement, des dos courbés, quelques coiffes blanches de femmes du peuple agenouillées par terre, 2 ou 3 mantelets qui avaient baissé leurs capuchons, mais c'était tout. On s'entendait mieux qu'on ne se voyait. Toutes ces bouches qui priaient à voix basse, dans ce grand vaisseau silencieux et sonore, et par le silence rendu plus sonore, faisaient ce susurrement singulier qui est comme le bruit d'une fourmilière d'âmes visible seulement à l'œil de Dieu. Ce susurrement continu et menu, coupé par intervalles de soupirs, ce murmure labial, si impressionnant dans les ténèbres d'une église muette, n'était troublé par rien si ce n'est parfois par une des portes des bas-côtés qui roulait sur ses gonds et claquait en se refermant derrière la personne qui venait d'entrer, ou le bruit alerte et clair d'un sabot qui longeait l'oreille des chapelles, une chaise qui, heurtée dans l'obscurité, tombait, et de temps en temps, une ou deux toux, de ces toux retenus de dévotes, qui les musiquent ou qui les flûtent, par respect pour les saints échos de la maison du Seigneur. Mais ces bruits, qui n'étaient que le passage rapide d'un son, n'interrompaient pas ces âmes attentives et ferventes dans le train-train de leurs prières et l'éternité de leurs susurrements. Et voilà pourquoi, de ce groupe de fidèles recueillis et rassemblés chaque soir dans l'église de, aucun ne prit garde à un homme qui en eût assurément étonné plus d'un, s'il avait fait assez de jour ou de clarté pour qu'il fût possible de le reconnaître. Ce n'était pas, lui, un hanteur d'église. On ne l'y voyait jamais. Il n'y avait pas mille pieds depuis qu'il était revenu, après des années d'absence, habiter momentanément sa ville natale. Alors pourquoi donc y entrait-il ce soir-là? Quel sentiment, quelle idée, quel projet l'avait décidé à franchir le seuil de cette porte devant laquelle il passait plusieurs fois par jour comme si elle n'eût pas existé? C'était un homme haut en tout qui avait dû courber sa fierté autant que sa grande taille pour passer sous la petite porte basse cintré et verdi par les humidités de ce pluvieux climat de l'Ouest, et qu'il avait prise pour entrer. Il ne manquait pas, après tout, de poésie dans sa tête de feu. Quand il entra dans ce lieu, qu'il avait probablement désappris, fut-il surpris, frappé de l'aspect presque tombal de cette église, qui de construction ressemble à une crypte, car elle est plus basse que le pavé de la place sur laquelle elle est bâtie, et son portail à escalier intérieur de quelques marches plus élevé que le maître-autel. Il n'avait pas vu la Sainte Brigitte. S'il l'avait lue, il aurait, en entrant dans cette atmosphère nocturne, pleine de mystérieux chuchotements, pensé à la vision de son purgatoire, à ce dortoir morne et terrible, où l'on ne voit personne et où l'on entend des voix basses et des soupirs qui sortent des murs. Quelle que fût du reste son impression, toujours est-il qu'il s'arrêta, peu sûr de lui-même et de ses souvenirs, s'il en avait, au milieu de la contre-allée dans laquelle il était engagé. Pour qui l'eût observé, il cherchait évidemment quelqu'un ou quelque chose qu'il ne trouvait pas dans ses ombres. Cependant, quand ses yeux s'y furent un peu faits, et qu'il put retrouver autour de lui les compteurs des choses, il finit par apercevoir une vieille mendiante, croulée plutôt qu'agenouillée, pour dire son chapelet, à l'extrémité du banc des pauvres. Et il lui demanda, en la touchant à l'épaule, la chapelle de la Vierge et le confessionnal d'un prêtre de la paroisse qui lui nomma. Renseigné par cette vieille habituée du banc des pauvres, qui depuis 50 ans peut-être semblait faire partie du mobilier de l'église de, et lui appartenir autant que les marmousets de ses gargouilles, l'homme en question arriva, sans trop d'encombre, à travers les chaises dérangées et dispersées par les offices de la journée, et se planta juste debout devant le confessionnal qui est au fond de la chapelle. Il y resta, les bras croisés, comme les ont presque toujours dans les églises, les hommes qui n'y viennent pas pour prier et qui veulent pourtant y avoir une attitude convenable et grave. Plusieurs dames de la congrégation du Saint-Rosaire, alors en oraison autour de cette chapelle, si elles avaient remarqué cet homme, n'auraient pu le distinguer autrement que par, je ne dirais pas l'impiété, mais la non-piété de son attitude. D'ordinaire, il est vrai, les soirs de confession, il y avait auprès de la quenouille de la Vierge, ornée de ses rubans, un cierge tord de cire jaune allumé et qui éclairait la chapelle. Mais comme on avait communié en foule le matin et qu'il n'y avait plus personne au confessionnal, le prêtre de ce confessionnal, qui faisait solitairement sa méditation, en était sorti, avait éteint le cierge de cire jaune et était rentré dans son espèce de cellule en bois pour y reprendre sa méditation sous l'influence de cette obscurité qui empêche toute distraction extérieure et qui féconde le recueillement. Était-ce un motif, était-ce hasard, caprice, économie ou quelque autre raison de ce genre qui avait déterminé l'action très simple de ce prêtre? Mais à coup sûr, cette circonstance sauva l'incognito s'il tenait à le garder de l'homme entré dans la chapelle et qui d'ailleurs n'y demeura que peu d'instants. Le prêtre, qui avait éteint son cierge avant son arrivée, l'ayant aperçu à travers les barreaux de sa porte à claire-voie, rouvrit toute grande cette porte, sans quitter le fond du confessionnal dans lequel il était assis, et l'homme, décroisant ses bras, tendit au prêtre un objet indiscernable qu'il avait tiré de sa poitrine. « Tenez, mon père, » dit-il d'une voix basse mais distincte, « voilà assez longtemps que je le traîne avec moi. » Et il n'en fut pas dit davantage. Le prêtre, comme s'il eût su de quoi il s'agissait, prit l'objet et referma tranquillement la porte de ce confessionnal. Les dames de la congrégation du Saint-Rosaire crurent que l'homme qui avait parlé au prêtre allait s'agenouiller et se confesser, et furent extrêmement étonnés de le voir descendre le degré de la chapelle d'un pied leste et regagner la contre-allée par où il était venu. Mais si elles furent surprises, il fut encore plus surpris qu'elles, car au beau milieu de cette contre-allée qu'il remontait pour sortir de l'église, il fut saisi brusquement par deux bras vigoureux et un rire abominablement scandaleux dans un lieu si saint partit presque à 2 pouces de sa figure. Heureusement pour les dents qui riaient qu'il les reconnut si près de ses yeux. « Sacré nom de Dieu !» fit en même temps le rieur à mi-voix, mais pas de manière cependant qu'on n'entendît pas près de là le blasphème et l'autre irrévérente parole. « Mais qu'est-ce que tu fous donc, Ménil, dans une église à pareille heure? Nous sommes plus en Espagne qu'au bout temps nous chiffonnions si joliment les guimpes des religieuses d'Avila. » Celui qu'il avait appelé Ménil eut un geste de colère. « Tais-toi » dit-il en réprimant l'éclat d'une voix qui ne demandait qu'à retentir. « Es-tu ivre ? Mais tu jures dans une église comme dans un corps de garde. Allons, pas de sottises, et sortons d'ici décemment tous deux. » Et il doubla le pas, enfila, suivi de l'autre la petite porte basse, et quand dehors et à l'air libre de la rue, ils eurent pu reprendre la plénitude de leur voix. Et que tous les tonnerres de l'enfer te brûlent, Ménil, continua l'autre, qui paraissait comme enragé. Vas-tu donc te faire capucin? Vas-tu donc manger de la messe? Toi, Ménigrand, toi le capitaine de Chamberan, comme un calotin dans une église. Mais tu y étais bien, toi, dit Ménil avec tranquillité. Ben, j'y étais pour t'y suivre. Je t'ai vu y entrer, plus étonné de ça, ma parole d'honneur, que si j'avais vu violer ma mère. Je me suis dit, mais qu'est-ce donc qu'il va faire dans cette grange à prêtraille? Puis j'ai pensé qu'il y avait là quelques damnés anguilles de jupe sous roche, et j'ai voulu voir pour quelle grisette ou pour quelle grande dame de la ville tu y allais. Ben, je n'y suis allé que pour moi seul, mon cher, dit Ménil, avec l'insolence froide du plus complet mépris de ce mépris qui se soucie bien de ce qu'on pense. Alors, tu m'étonnes plus diablement que jamais. Mon cher, reprit Ménil en s'arrêtant, les hommes, comme moi, n'ont été faits de toute éternité que pour étonner les hommes, comme toi. Et, tournant le dos et hâtant le pas, comme quelqu'un qui n'entend pas être suivi, il monta la rue de Gisors et regagna la place Turin, dans un des angles de laquelle il demeurait. Il demeurait chez son père, le vieux monsieur de Ménilgrand, comme on l'appelait par la ville, quand on en parlait. C'était un vieillard riche et avare, prétendait-on. Dur à la détente, c'était le beau dont on le servait, qui depuis longtemps, depuis de longues années, vivait retiré de toute compagnie, excepté pendant les 3 mois que son fils, qui habitait Paris, venait passer dans la ville de... Alors ce vieux monsieur de Ménilgrand, qui ne voyait pas un chat d'ordinaire, se mettait à inviter, à recevoir les anciens amis et camarades de régiment de son fils, et à se gaver de ses somptueux dîners d'avares, à faire partout, disaient les rabelaisiens de l'endroit, fort mal proprement et fort agréablement ainsi, car la chair, cette chair de vilain vantée par les proverbes, y était excellente. Pour vous en donner une idée, il y avait à cette époque-là, dans la ville de... un fameux receveur particulier des finances qui avait, quand il y arriva, produit l'effet d'un carrosse à 6 chevaux entrant dans une église. C'était un assez mince financier que ce gros homme, et la nature s'était amusée à en faire de vocation un grand cuisinier. On racontait qu'en 1814, il avait apporté à Louis XVIII des talents vergants, d'une main la caisse de son arrondissement et de l'autre un coulis de truffes qui semblait avoir été cuisiné par les 7 diables des péchés capitaux tant il était délicieux. Louis XVIII avait, comme de juste, pris la caisse sans dire seulement merci, mais de reconnaissance pour le coulis, il avait orné l'estomac prépotent de ce maître queue de génie, poussé en pleine finance, de son grand cordon noir de Saint-Michel, qu'on n'accordait guère qu'à des savants ou à des artistes. Avec ce large cordon noir, et toujours plaqué sur son gilet blanc, et son crachat d'or allumant sa bedaine, ce turcaret de M. Deltoc, oui, il s'appelait Deltoc, qui les jours de Saint-Louis portait l'épée et l'habit de velours à la française, orgueilleux et insolent comme 36 cochers anglais, poudrés d'argent, et qui croyait que tout devait céder à l'empire de ses sauces, était pour la ville de un personnage de vanité et de faste presque solaire. Eh bien, c'est avec ce haut personnage dinatoire, qui se vantait de pouvoir faire 49 potages maigres d'espèces différentes, mais qui ne savait pas combien il en pouvait faire de gras, c'était l'infini, que la cuisinière du vieux monsieur de Ménilgrand luttait et à qui elle donnait des inquiétudes pendant le séjour de son fils au vieux monsieur de Ménilgrand. Il en était fier de son fils, mais aussi il en était triste de ce grand vieillard de père, et il y avait de quoi. Son jeune homme, comme il l'appelait, quoiqu'il eût 40 ans passés, avait eu la vie brisée du même coup qui avait mis l'empire en miettes et renversé la fortune de celui qui alors n'était plus que l'empereur, comme il avait perdu son nom dans sa fonction et dans sa gloire. Parti comme vélite à 18 ans, de l'étoffe dans laquelle se taillaient les maréchaux à cette époque, le fils Ménilgrand avait fait les guerres de l'empire, ayant sur son colbac tous les panaches de l'espérance, mais le tonnerre final de Waterloo avait brûlé jusqu'à ras de terre ses dernières ambitions. Il était de ceux que la Restauration ne reprit pas à son service parce qu'il n'avait pu résister à la fascination du retour de l'île d'Elbe, qui fit oublier leur serment aux honnêtes hommes les plus forts, comme s'ils avaient perdu leur libre arbitre. Le chef d'escadron Ménilgrand, celui dont les officiers de Chambrand, ce régiment romanesquement brave, disait « Oh, peut-être aussi brave que Ménilgrand, mais davantage c'est impossible !» vit de ses camarades de régiment qui n'avaient pas des éclats de service comparables aux siens, devenir à sa moustache colonel des plus beaux régiments de la garde royale. Et, bon, quoiqu'il ne fût pas jaloux, ce lui fut vraiment une cruelle angoisse. C'était une nature de l'intensité la plus redoutable. La discipline militaire d'un temps où elle fut presque romaine fut seule capable d'endiguer les passions de ce violent qui, de ses passions inexprimablement terribles, avait révolté sa ville natale avant 18 ans et failli mourir. Avant 18 ans, en effet, des excès de femme, des excès insensés, lui avaient donné une maladie nerveuse, une espèce de tabès dorsale, pour lequel il avait fallu lui brûler la colonne vertébrale avec des moxas. Cette médication effrayante qui épouvanta la ville de, comme ses excès l'avaient épouvanté, fut un genre de supplice exemplaire dont les pères de famille de la ville infligèrent la vue à leurs fils pour les moraliser comme on moralise les peuples par la terreur. Ils les menèrent voir brûler le jeune Ménilgrand, qui n'échappa aux morsures du feu, dirent les médecins, que grâce à une organisation d'enfer. C'était le mot, puisqu'elle avait si bien résisté à la flamme. Aussi, quand, avec cette organisation si prodigieusement exceptionnelle, qui, après les moxas, résista plus tard aux fatigues, aux blessures et à tous les fléaux qui puissent fondre sur un homme de guerre, mais il grand, robuste, encore se vit en pleine maturité, sans le grand avenir militaire qu'il avait rêvé, sans but désormais, les bras cassés, les pieds cloués au fourreau. Ses sentiments s'exaspérèrent jusqu'à la fureur la plus aiguë. S'il fallait, pour le faire comprendre, chercher dans l'histoire un homme à qui comparer Ménilgrand, on serait obligé de remonter jusqu'au fameux Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Un moraliste ingénieux, préoccupé du non-sens de nos destinées, a, pour l'expliquer, prétendu que les hommes ressemblent à des portraits dont les uns ont la tête ou la poitrine coupée par leur cadre, sans proportion avec leur grandeur naturelle, et dont les autres disparaissent, rapetissés et réduits à l'état de nains par l'absurde immensité du leur. Ménilgrand, fils d'un simple bourreau bas normand, qui devait mourir dans l'obscurité de la vie privée, après avoir manqué la grande gloire historique pour laquelle il était né, se rencontra à voir, et pourquoi en faire, l'épouvante puissance de furie continue, d'enveniment et d'ulcération enragée qu'avait ce téméraire, que l'histoire appelle aussi le terrible Waterloo, qu'il avait jeté sur le pavé, fut pour lui, en une fois, ce que Granson et Morat avaient été en deux pour cette foudre humaine qui s'éteignit dans les neiges de Nancy. Seulement, il n'y eut pas de neige et de Nancy pour Ménilgrand, le chef d'escadron dégommé, comme disent les gens, qui déshonorent tout avec leur bas vocabulaire. À cette époque, on crut qu'il se tuerait ou qu'il deviendrait fou. Il ne se tua point et sa tête résista. Il ne devint pas fou. Il l'était déjà, dirent les rieurs, car il y a toujours des rieurs. S'il ne se tua pas, et sa nature étant donnée, ses amis auraient pu lui demander, mais ne lui demandèrent pas pourquoi, il n'était pas homme à se laisser manger le cœur par le vautour sans essayer d'écraser le bec du vautour. Comme Alfieri, cet incroyable volontaire d'Alfieri, qui ne sachant rien que dompter des chevaux a pris le grec à 40 ans et fit même des vers grecs, Ménilgrand se jeta, ou plutôt se précipita dans la peinture, c'est-à-dire dans ce qu'il y avait de plus éloigné de lui, exactement comme on monte au 7e étage pour se tuer mieux, en tombant de plus haut quand on veut se jeter par la fenêtre. Il ne savait pas un mot de dessin, et il devint peintre comme Géricault, qu'il avait, je crois, connu aux mousquetaires. Il travailla avec la furie de la fuite devant l'ennemi, disait-il, avec un rire amer. Exposa, fit éclat, n'exposa plus, crevant ses toiles après les avoir peintes et recommençant de travailler avec un infatigable acharnement. Cet officier, qui avait toujours vécu le bancal à la main, emporté par son cheval à travers l'Europe, passa sa vie piqué devant un chevalet, sabrant la toile de son pinceau, et tellement dégoûté de la guerre, le dégoût de ceux qui adorent, que ce qu'il peignait le plus, c'était des paysages comme ceux qu'il avait ravagés. Tout en les peignant, il mâchait je ne sais quel mastic d'opium, mêlé au tabac qu'il fumait jour et nuit, car il s'était fait construire une espèce de houka de son invention, dans lequel il pouvait fumer même en dormant. Mais si les narcotiques, mais ni les stupéfiants, ni aucun des poisons avec lesquels l'homme se paralyse et se tue en détail, ne purent endormir ce monstre de fureur, qui ne s'assoupissait jamais en lui et qu'il appelait le crocodile de sa fontaine, un crocodile phosphorescent dans une fontaine de feu. D'aucuns qui le connaissaient mal le crurent longtemps Carbonaro, mais pour ceux qui le connaissaient bien, il y avait trop de déclamations et de libéralisme bête dans le carbonarisme pour qu'un homme aussi absolu tombât dans des niaiseries qu'il jugeait avec la ferme judiciaire de son pays. Et de fait, en dehors de ses passions, dont l'extravagance avait été quelquefois sans limite, il avait le sentiment net de la réalité qui distingue les hommes de race normande. Il ne donna jamais dans l'illusion des conspirations. Il avait prédit au général Berton sa destinée. D'un autre côté, les idées démocratiques sur lesquelles les impérialistes s'appuyèrent sous la Restauration pour mieux conspirer lui répugnaient d'instinct. Il était profondément aristocrate. Il n'était pas seulement de naissance, de caste, de rang social, il était de nature, comme il était lui et pas un autre, et comme il eût été encore, aurait-il été le dernier cordonnier de sa ville, il l'était enfin, comme dit Henry Heine, par sa grande manière de sentir, et non point bourgeoisement, à la façon des parvenus qui aiment les distinctions extérieures. Il ne portait pas ses décorations. Son père, le voyant à la veille de devenir colonel, quand s'écroula l'Empire, lui avait constitué un majorat de baron, mais il n'en prit jamais le titre, et sur ses cartes, et pour tout le monde, il ne fut que le chevalier de Ménilgrand. Les titres vides et des privilèges politiques dont ils étaient bourrés autrefois, et qui en faisaient de vraies armes de guerre, ne valaient pas plus à ses yeux que des écorces d'orange quand l'orange n'y est plus, et il s'en moquait bien même devant ceux qui les respectaient. Il en donna la preuve un jour, dans cette petite ville de, entichée de noblesse, où les anciens seigneurs terriens du pays, ruinés et volés par la Révolution, avaient peut-être, pour se consoler, l'inoffensive manie de s'attribuer entre eux des titres de comte et de marquis, que leur famille, très ancienne et n'ayant nul besoin de cela pour être noble, n'avait jamais porté. Ménilgrand, qui trouvait cette usurpation ridicule, prit un moyen hardi pour la faire cesser. Un soir de réunion, dans une des maisons les plus aristocratiques de la ville, il dit aux domestiques « Annoncez le duc de Ménilgrand ». Et le domestique, étonné, annonça d'une voix de stentor « Monsieur le duc de Ménilgrand ». Ce fut un haut-le-corps général. « Ma foi, dit-il, voyant l'effet qu'il avait produit, en tant que tout le monde se donne un titre, j'ai mieux aimé prendre celui-là. » On ne souffla mot, et même quelques-uns de bonne humeur se mirent à rire dans les petits coins, mais on ne recommença plus. Il y a toujours des chevaliers errants dans le monde, Il ne redresse plus les torts avec la farce, lance, mais les ridicules avec la raillerie. Et Ménilgrand était de ces chevaliers-là. Il avait le don du sarcasme, mais ce n'était pas le seul don que le dieu de la force lui eût fait. Quoique dans son économie animale, le caractère fût sur le premier plan, comme chez presque tous les hommes d'action, l'esprit resté en seconde ligne n'en était pas moins pour lui et contre les autres une puissance. Nul doute que si le chevalier de Ménilgrand avait été un homme heureux, il eût été très spirituel. Mais, malheureux, il avait des opinions de désespéré, et quand il était gai, chose rare, une gaieté de désespéré, et rien ne casse mieux que la pensée fixe du malheur, le kaléidoscope de l'esprit n'en empêche mieux de tourner en éblouissant. Seulement, ce qu'il avait par-dessus tout, c'était, avec les passions qui fermentaient dans son sein, une extraordinaire éloquence. Le mot qu'on a dit de Mirabeau et qu'on peut dire de tous les orateurs, « si vous l'eussiez entendu », semblait fait spécialement pour lui. Il fallait le voir à la moindre discussion, sa poitrine de volcan soulevée, passant du pâle à un pâle plus profond, le front labouré de houle de rides, comme la mer dans l'ouragan de sa colère, les pupilles jaillissant de leurs cornets comme pour frapper ceux à qui il parlait, de balles flamboyantes. Il fallait le voir, haletant, palpitant, la laine courte, la voix plus pathétique à mesure qu'elle se brisait davantage, l'ironie faisant trembler l'écume sur ses lèvres, longtemps vibrante après qu'il avait parlé, plus sublime d'épuisement, après ses accès, que Talma dans Oreste, plus magnifiquement tué et cependant ne mourant pas, n'étant pas achevé par sa colère, mais la reprenant le lendemain, une heure après, une minute après, phénix de terreur renaissant toujours de ses cendres. Et en effet, n'importe à quel moment on toucha de certaines cordes immortellement tendues en lui, il s'en échappait des résonances à renverser celui qui aurait eu l'imprudence de les effleurer. Il est venu passer hier la soirée à la maison, disait une jeune fille à une autre de ses amies. Ma chère, il y a rugi tout le temps, c'est un démoniaque. On finira par ne plus le recevoir du tout, monsieur de Ménilgrand. Sans ces rugissements de mauvais ton, pour lesquels ne sont faits ni les salons ni les hommes qui les habitent, peut-être aurait-il intéressé les jeunes filles qui en parlaient avec cette moqueuse sévérité. Lord Byron commençait à devenir fort à la mode dans ce temps-là, et quand Ménilgrand était silencieux et contenu, il y avait en lui quelque chose des héros de Byron. Ce n'était pas la beauté régulière que les jeunes personnes à âme froide recherche. Il était rudement laid, mais son visage pâle et ravagé, sous ses cheveux châtains, restait très jeune, son front ridé prématurément comme celui de Lara ou du corsaire, son nez épaté de léopard, ses yeux glauques légèrement bordés d'un filet de sang comme ceux des chevaux de race très ardents, avait une expression devant laquelle les plus moqueuses de la ville de se sentaient troublées. Quand il était là, les plus ricaneuses ne ricanaient plus. Grand, fort, bien tourné, quoiqu'il se voûtât un peu du haut du corps, comme si la vie qu'il portait eût été une armure trop lourde, le chevalier de Ménilgrand avait, sous son costume moderne, l'air perdu qu'on retrouve dans certains majestueux portraits de famille. « C'est un portrait qui marche », disait encore une jeune fille qui le voyait entrer dans un salon pour la première fois. D'ailleurs, Ménilgrand couronnait tous ses avantages par un avantage supérieur à tous les autres aux yeux de ses fillettes. Il était divinement mis. Était-ce là une dernière coquetterie de sa vie d'homme à femme, à se désespérer, et qui survivait à cette vie finie, enterrée comme le soleil couché envoie un dernier rayon rose au flanc des nuages, derrière lesquels il a sombré? Était-ce un reste du luxe satrapesque, étalé autrefois par cet officier de Chamboran, qui avait fait payer au vieil avare son père, quand ce régiment fut licencié, 20 000 francs seulement de peau de tigre pour ses chabraques et ses bottes rouges? Mais le fait est qu'aucun jeune homme de Paris ou de Londres ne l'eût emporté par l'élégance sur ce misanthrope qui n'était plus du monde et qui, pendant les 3 mois de son séjour à ne faisait que quelques visites et puis après n'en faisait plus. Il y vivait, comme à Paris, livré à sa peinture jusqu'à la nuit. Il se promenait peu dans cette ville propre et charmante, à l'aspect rêveur, bâtie pour des rêveurs, cette ville de poètes où il n'y en avait peut-être pas un. Quelquefois, il y passait dans quelques rues, et le boutiquier disait à l'étranger, qui remarquait sa hautaine tournure, « Oh, c'est le commandant Ménilgrand !» Comme si le commandant Ménilgrand devait être connu de toute la terre. Qu'il avait vu une fois ne l'oubliait plus. Il imposait, comme tous les hommes qui ne demandent plus rien à la vie, car qui ne demande rien à la vie est plus haut qu'elle, et c'est alors qu'il fait des bassesses avec nous. Il n'allait point au café avec les autres officiers, que la restauration avait rayé de ses cadres de service et auxquels il ne manquait jamais de donner une poignée de main quand il les rencontrait. Les cafés de province répugnaient à son aristocratie. C'était pour lui affaire de goût que de ne pas entrer là. Cela ne scandalisait personne. Les camarades étaient toujours sûrs de le rencontrer chez son père, devenu, pendant son séjour, magnifique d'avare qu'il était pendant son absence, et qui leur donnait des festins appelés par eux des Balthazar, quoi qu'il n'eût jamais lu la Bible. Il y assistait en face de son fils, et quoiqu'il fût vieux et sembla-t-il par la tenue un personnage de comédie, on voyait que le père avait dû être, dans le temps, digne de procréer cette géniture dont il avait l'orgueil. C'était un grand vieillard très sec, droit comme un mât de vaisseau, qui tenait altièrement tête à la vieillesse. Toujours vêtu d'une longue redingote de couleur sombre, qui le faisait paraître encore plus grand qu'il n'était, il avait extérieurement l'austérité du penseur ou d'un homme pour lequel le monde n'avait ni pompe ni œuvre. Il portait, sans le quitter jamais, depuis des années, un bonnet de coton avec un large serre-tête lilas. Mais nul plaisant n'aurait songé à rire de ce bonnet de coton, la coiffure traditionnelle du malade imaginaire. Le vieux monsieur de Ménilgrand ne prêtait pas plus à la comédie qu'à personne. Il aurait coupé le rire sur les lèvres joyeuses de Régnard, et rendu plus pensif le regard pensif de Molière. Quelle eût été la jeunesse de ce Géronte ou de cet Harpagon, presque majestueux? Bon, cela remontait trop loin pour qu'on s'en souvînt. Il avait donné, disait-on, du côté de la Révolution, quoiqu'il fût le parent de Vic d'Azyr, le médecin de Marie-Antoinette, mais ce n'avait pas été long. L'homme du fait, les Normands appellent leur bien leur fait, expression profonde. Le possesseur, le terrien, avait en lui promptement redressé l'homme d'idées. Seulement, de la Révolution, il était sorti athée politique, comme il y était athée, entré athée religieux, et ces deux athéismes combinés en avaient fait un négateur carabiné qui aurait effrayé Voltaire. Il parlait peu du reste de ses opinions, excepté dans ses dîners d'hommes qu'il donnait pour fêter son fils, où, se trouvant en famille d'idées, il s'est échappé des lueurs d'opinion qui auraient justifié ce qu'on disait de lui par la ville. Pour les gens religieux et les nobles dont elle était pleine, c'était en effet un vieux réprouvé qu'il était impossible de voir et qui s'était fait justice en allant chez personne. Sa vie était très simple, il ne sortait jamais. Les limites de son jardin et de sa cour étaient pour lui le bout du monde. Assis, l'hiver, sous le grand manteau de la cheminée de sa cuisine, où il avait fait rouler un vaste fauteuil rouge-brun de velours d'Utrecht, à larges oreilles, silencieux devant les domestiques qu'il gênait de sa présence, car devant lui il n'osait pas parler haut, et il s'entretenait à voix basse, comme dans une église. L'été, il les délivrait de sa présence, et il se tenait dans sa salle à manger, qui était fraîche, lisant les journaux ou quelques bouquins d'une ancienne bibliothèque, de moines achetés par lui à la criée, ou classant des quittances devant un petit secrétaire d'érable à coin cuivré, qu'il avait fait descendre là pour ne pas être obligé de monter un étage quand ses fermiers venaient, et quoique ce ne fût pas là un meuble de salle à manger. S'il se passait autre chose que des calculs d'intérêt dans sa cervelle, c'est ce que personne ne savait. Sa face, à nez court, un peu écrasé, blanche comme la céruse et troubée de petites véroles, ne laissait rien filtrer de ses pensées, aussi énigmatique que celle d'un chat qui fait ronron au coin du feu. La petite vérole qu'il avait criblée lui avait rougi les yeux et retourné les cils en dedans qu'il était obligé de couper. Et cette horrible opération, qu'il fallait répéter souvent, lui avait rendu la vue clignotante, si bien que, quand il vous parlait, il était obligé de mettre la main sur ses sourcils comme un garde-vue pour s'assurer le regard en se renversant un peu en arrière, ce qui lui donnait tout à la fois un grand air d'impertinence et de fierté. On eût certainement, avec aucun lorgnon, obtenu un effet d'impertinence supérieur à celui qu'obtenait le vieux monsieur de Ménilgrand avec sa main tremblante, posée de champ sur ses sourcils pour vous ajuster et vous voir mieux quand il vous interpellait. Sa voix était celle d'un homme qui avait toujours eu le droit du commandement sur les autres, une voix de tête plus que de poitrine, comme celle d'un homme qui a lui-même plus de tête que de cœur. Mais il ne s'en servait pas beaucoup. On aurait dit qu'il en était aussi avare que de ses écus. Il l'économisait, non pas comme le centenaire Fontenelle économisait la sienne, quand il interrompait sa phrase, lorsqu'il passait une voiture, pour la reprendre après que le roulement de la voiture avait cessé. Non, le vieux monsieur de Ménilgrand n'était pas comme le vieux Fontenelle, un bonhomme de porcelaine fêlée, perpétuellement occupé à surveiller ses fêlures. C'était, lui, un antique dolmen de granit pour la solidité, et s'il parlait peu, c'est que les dolmens parlent peu, comme les jardins de la fontaine. Quand cela lui arrivait, du reste, c'était d'une brève façon, à la Tacite. En conversation, il gravait le mot. Il avait le style lapidaire et même lapidant, car il était né caustique, et les pierres qu'il jetait dans le jardin des autres atteignaient toujours quelqu'un. Autrefois, comme beaucoup de pères, il avait poussé des cris de cormoran contre les dépenses et les folies de son fils. Mais depuis que Ménil, ainsi qu'il disait par abréviation Cavillière, était resté pris comme un titan sous la montagne renversée de l'Empire, il avait pour lui le respect d'un homme qui a pesé la vie dans tous les trébuchets du mépris et qui trouvait que rien n'est plus beau, après tout, que la force humaine écrasée par la stupidité du destin. Et il le lui témoignait à sa manière, et cette manière était expressive. Quand son fils parlait devant lui, il y avait de l'attention passionnée sur cette froide face blafarde qui semblait une lune dessinée au crayon blanc sur papier gris et dont les yeux, rougis par la petite vérole, eussent été passés à la sanguine. D'ailleurs, la meilleure preuve qu'il put donner du cas qu'il faisait de son fils Ménil, c'était, pendant le séjour chez lui de ce fils, le complet oubli de son avarice, de cette passion qui lâche le moins de sa poigne froide l'homme qu'elle a pris. C'était ces fameux dîners qui empêchaient M. Deltoc de dormir et qui agitaient les lauriers de ses jambons au-dessus de sa tête. C'était ces dîners comme le diable peut se l'entripoter pour ses favoris. Et de fait, les convives de ces dîners-là n'étaient-ils pas les très grands favoris du diable? Tout ce que la ville et l'arrondissement ont de gueux et de scélérats se trouve là. Marmottel et royaliste et les défauts qui avaient encore des passions de 1815. Il doit ainsi dire furieusement d'infamie. Et peut-être s'y en faire, ajoutait-il. Les domestiques qu'on ne renvoyait pas au dessert, comme au souper du baron d'Holbach, colportaient en effet des bruits abominables par la ville sur ce qu'on disait en ces ripailles, et la chose même devint si forte dans l'opinion que la cuisinière du vieux monsieur de Ménilgrand fut circonvenu par ses amis et menacé de ceci, que pendant la visite du fils Ménilgrand à son père, monsieur le curé ne le laisserait plus approcher des sacrements. On éprouvait alors dans la ville de, pour ces agapes si tympanisées de la place Turin, une horreur presque égale à l'horreur que les chrétiens au Moyen-Âge ressentaient pour ces repas des juifs dans lesquels ils profanaient des hosties et égorgeaient des enfants. Il est vrai que cette horreur était un peu tempérée par les convoitises d'une sensualité très éveillée et par tous les récits qui faisaient venir l'eau à la bouche des gourmands de la ville. Quand on parlait devant eux des dîners du vieux monsieur de Ménilgrand, en province et dans une petite ville, tout se sait. La halle y est mieux que la maison de verre du Romain, elle y est une maison sans mur. On savait à un perdreau ou à une épée ou à une petite bécassine près ce qu'il aurait ou ce qu'il y avait eu à chaque dîner hebdomadaire de la place Turin. Ces repas, qui avaient ordinairement lieu tous les vendredis, raflaient le meilleur poisson et le meilleur coquillage à la halle, car on y faisait imprudemment chair de commissaire en ces festins affreux et malheureusement exquis. On y mariait fastueusement le poisson à la viande pour que la loi de l'abstinence et de la mortification prescrite par l'Église fût mieux transgressée. Et cette idée-là était bien l'idée du vieux monsieur de Ménilgrand et de ses satanés convives. Cela leur assaisonnait leur dîner de faire gras les jours maigres, et par-dessus leur gras, de faire un maigre délicieux, un vrai maigre de cardinal. Il ressemblait à cette napolitaine qui disait que son sorbet était bon, mais qu'il aurait trouvé meilleur s'il avait été un péché. Et que dis-je, un péché ? Il aurait fallu qu'il en fût plusieurs pour ces impies, car tous, tant qu'ils étaient, qui venaient s'asseoir à cette table maudite, c'étaient des impies, oh, mais des impies de haute Grèce et de Crète écarlate, de mortels ennemis du prêtre, dans lesquels il voyait toute l'Église, des athées absolus et furieux, comme on l'était à cette époque. L'athéisme d'alors était un athéisme très particulier. C'était en effet celui d'une période d'hommes d'action de la plus immense énergie qui avait passé par la Révolution et les guerres de l'Empire et qui s'était vautré dans tous les excès de ces temps terribles. Or, ce n'était pas du tout l'athéisme du XVIIIe siècle dont il était pourtant sorti. L'athéisme du XVIIIe siècle avait des prétentions à la vérité et à la pensée. Il était raisonneur, sophiste, déclamatoire, surtout impertinent. Mais il n'avait pas les insolences des soulards de l'Empire et des régicides apostats de 93. Nous qui sommes venus après ces gens-là, nous avons aussi notre athéisme absolu, concentré, savant, glacé, haïsseur, haïsseur implacable, ayant pour tout ce qui est religieux la haine de l'insecte pour la poudre qu'il perce. Mais lui, non plus que l'autre, cet athéisme-là, ne peut donner l'idée de l'athéisme forcené des hommes du commencement du siècle, qui, élevés comme des chiens par les voltairiens, leurs pères, avaient, depuis qu'ils étaient hommes, mis leurs mains jusqu'à l'épaule dans toutes les horreurs de la politique et de la guerre et de leur double corruption. Après 3 ou 4 heures de buverie et de mangerie blasphématoire, la salle à manger hurlante du vieux monsieur de Ménilgrand avait de bien autres vibrations et une bien autre physionomie que ce piètre cabinet de restaurant où quelques mandarins chinois de la littérature ont fait dernièrement leur petite orgie à 5 francs par tête contre Dieu. C'était ici de toute autre bombance, et comme elles ne recommenceront probablement jamais, du moins dans les mêmes termes, il est intéressant et nécessaire pour l'histoire des mœurs de les rappeler. Ce qui les faisait, ces bombances sacrilèges, sont morts et bien morts, mais à cette époque ils vivaient, et même c'est l'époque où ils vivaient le plus, car la vie est plus forte quand ce ne sont pas les facultés qui baissent, mais les malheurs qui ont grandi. Tous ces amis de Ménilgrand, tous ces commensaux de la maison de son père, avaient la même plénitude de force active qu'ils eussent jamais eue, et ils en avaient davantage puisqu'ils les avaient exercés, puisqu'ils avaient bu à la bonde du tonneau de tous les excès du désir de la jouissance, sans avoir été foudroyés par ces spiritueux renversants. Mais ils ne tenaient plus entre leurs dents et leurs mains crispées la bonde du tonneau qu'ils avaient mordu, comme Cynégyre son vaisseau pour le retenir. Les circonstances leur avaient arraché des dents, cette mamelle qu'ils avaient tétée, sans l'épuiser, et ils n'en avaient que plus soif de l'avoir tété. C'était pour eux aussi que pour Ménilgrand l'heure de l'enragement. Ils n'avaient pas la hauteur de l'âme de Ménil, de ce Roland le Furieux, dont l'Arioste, s'il avait eu un Arioste, aurait dû ressembler de génie tragique à Shakespeare, mais à leur niveau d'âme, à leur étage de passion et d'intelligence, ils avaient comme lui leur vie finie avant la mort, qui n'est pas la fin de la vie et qui souvent vient bien longtemps avant sa fin. C'étaient des désarmés avec la force de porter des armes. Ils n'étaient pas, tous ces officiers, que des licenciés de l'armée de la Loire. C'étaient les licenciés de la vie et de l'espérance. L'Empire perdu, la Révolution écrasée, par cette réaction qui n'a pas su la tenir sous son pied, comme Saint-Michel y tient le dragon, tous ces hommes rejetés de leurs positions, de leurs emplois, de leurs ambitions et de tous les bénéfices de leur passé, étaient retombés impuissants, défaits, humiliés dans leur ville natale, où ils étaient revenus crevés misérablement comme des chiens, disait-il avec rage. Au Moyen-Âge, ils auraient fait des pastoureaux, des routiers, des capitaines d'aventure, mais on ne choisit pas son temps. Mais les pieds pris dans les rainures d'une civilisation qui a ses proportions géométriques et ses précisions impérieuses, force leur était de rester tranquilles, de ronger leurs freins, d'écumer sur place, de manger et de boire leur sang et d'en ravaler le dégoût. Ils avaient bien la ressource des duels, mais que sont quelques coups de sabre ou de pistolet quand il aurait fallu des hémorragies de sang versées à noyer la terre pour calmer l'apoplexie de leur fureur et de leur ressentiment. Vous vous doutez bien, après cela, des oremus qu'ils adressaient à Dieu quand ils en parlaient. Car s'ils n'y croyaient pas, d'autres y croyaient, leurs ennemis, et c'était assez pour maugréer, blasphémer et canonner dans leurs discours tout ce qu'il y a de saint et de sacré parmi les hommes. Mais ni le grand, disait eux un soir en les regardant autour de la table de son père et aux lueurs d'un punch gigantesque, qu'on en montrait un beau corsaire, rien n'y manquerait, ajoutait-il, en guignant deux ou trois de défroqués mêlés à ces soldats sans uniforme. Pas même des aumôniers, et si c'était là une fantaisie de corsaire, que des aumôniers. Mais après la levée du blocus continental et l'époque folle de paix qui suivit, si ce ne fut pas le corsaire qui manqua, ce fut l'armateur. Eh bien, ces convives du vendredi, qui scandalisaient hebdomadairement la ville de, vinrent, suivant leur usage, dîner à l'hôtel Ménilgrand le vendredi, en suivant le dimanche où Ménil avait été si brusquement appréhendé dans l'église par un de ses anciens camarades, étonné et furieux de l'y voir. Cet ancien camarade était le capitaine Ransonnet, du 8e dragon, lequel, par parenthèse, arriva un des premiers au dîner de ce jour-là, n'ayant pas revu Ménilgrand toute la semaine et n'ayant pu encore digérer sa visite à l'église et la manière dont Ménil l'avait reçu et planté là quand il lui avait demandé des explications. Il comptait bien revenir sur cette chose stupéfiante dont il avait été témoin, et qu'il tenait à éclaircir en présence de tous les conviés du vendredi qu'il régalerait de cette histoire. Le capitaine Ransonnet n'était pas le plus mauvais garçon des mauvais garçons de la bande des vendredis, mais il était l'un des plus fanfarons et tout à la fois des plus naïfs d'impiété. Quoiqu'il ne fût pas sot, il en était devenu bête. Il avait toujours l'idée de Dieu dans l'esprit, comme une mouche dans le nez. Il était, de la tête aux pieds, un officier du temps, avec tous les défauts et les qualités de ce temps, pétri par la guerre et pour la guerre, et ne croyant qu'à elle et n'aimant qu'elle. Un de ces dragons qui font sonner leurs gros talons, comme dit la vieille chanson dragonne. Des 25 qui dînaient ce jour-là, à l'hôtel Ménilgrand, il était peut-être celui qui aimait le plus Ménil, quoiqu'il eût perdu le fil de son Ménil depuis qu'il l'avait vu entrer dans une église. Est-il besoin d'en avertir? La majorité de ces 25 convives se composait d'officiers, mais il n'y avait pas à ce dîner que des militaires. Il y avait des médecins, les plus matérialistes des médecins de la ville, quelques anciens moines, fuyards de leur habit et en rupture de vœux, contemporains du père Ménilgrand, deux ou trois prêtres soi-disant mariés, mais en réalité concubinaires, et, brochant sur le tout, un ancien représentant du peuple qui avait voté la mort du roi. Bonnet rouge ou shako, les uns révolutionnaires à tout craint, les autres bonapartistes effrénés, prêts à se chamailler et à s'arracher les entrailles, mais tous athées, et sur ce point seul, de la négation de Dieu et du mépris de toutes les églises, de la plus touchante unanimité. Ce sang des drains de diable à plusieurs espèces de cornes était présidé par ce grand diable en bonnet de coton, le père Mesnil Grand, à la face blême et terrible sous cette coiffure, qui n'avait plus rien de bouffon avec pareille tête par-dessous, et qui se tenait droit au milieu de sa table, comme l'évêque mitré de la messe du sabbat, vis-à-vis de son fils Ménil, au visage fatigué de lion au repos, mais dont les muscles étaient toujours prêts de jouer dans son mufle ridé et de lancer les éclairs. Quant à lui, disons-le, il se distinguait impérialement de tous les autres. Ses officiers anciens beaux de l'Empire, ou du temps de beau, avaient certes de la beauté et même de l'élégance, mais leur beauté était régulière, tempéramenteuse, purement ou impurement physique, et leur élégance soldatesque. Quoiqu'en habit bourgeois, ils avaient conservé le raide de l'uniforme qu'ils avaient porté toute leur vie. Selon une expression de leur vocabulaire, ils étaient un peu trop ficelés. Les autres convives, gens de science comme les médecins, ou revenus de tout comme ces vieux moines qui se souciaient bien d'un habit après avoir porté et foulé aux pieds les ornements sacrés de la splendeur sacerdotale, ressemblaient par le vêtement à d'indignes pleutres. Mais lui, Ménil Grand, était, eussent dit les femmes, adorablement mis. Comme on était au matin encore, il portait un amour de redingote noire, et il était cravaté, comme on se cravatait alors, d'un foulard blanc, de nuances écrues, semé d'imperceptibles étoiles d'or brodées à la main. Étant chez lui, il ne s'était pas botté. Son pied nerveux et fin qui faisait dire « Mon prince » aux pauvres assis au bord des rues quand il passait près d'eux, était chaussé de bas de soie à jour et de ses escarpins très découverts et à toit long et élevé qu'affectionnait Chateaubriand, l'homme le plus préoccupé de son pied, qu'il y eut alors en Europe après le grand-duc Constantin. Sa redingote ouverte, coupée par Staub, laissait voir un pantalon de prunelle à reflets scabieuses et un simple gilet de casimir noir à châle, sans chaîne d'or, car, ce jour-là, Ménil Grand n'avait de bijoux d'ancien d'aucune sorte, si ce n'est un camé antique d'un grand prix, représentant la tête d'Alexandre, qui fixait sur sa poitrine les plis étendus de sa cravate sans nœud, presque militaire, un housse-col. Rien qu'en le voyant, cette tenue, d'un goût si sûr, on sentait que l'artiste avait passé par le soldat et l'avait transfiguré, et que l'homme de cette mise n'était pas de la même espèce que les autres qui étaient là, quoiqu'il fût à tu et à toi avec beaucoup d'entre eux. Le patricien de nature, l'officier négrène d'épinard, comme ils disaient de lui dans leur langue militaire, se révélait et tranchait bien sur ce vigoureux repoussoir de soldats énergiques, excessivement vaillants, mais vulgaires et inaptes au commandement supérieur. Maître de maison, en seconde ligne, puisque son père faisait les honneurs de sa table, Ménil Grand, s'il ne s'élevait pas quelqu'une de ces discussions qu'il enlevait par les cheveux, comme Percé enleva la tête de la Gorgone, et lui faisait vomir les flots de sa fougueuse éloquence, Ménil Grand parlait peu en ses réunions bruyantes, dont le ton n'était pas complètement le sien, et qui, dès les huîtres, montrait un diapason de voix, d'aperçus et d'idées si aigus qu'une note de plus n'était pas possible et que le plafond, ce bouchon de la salle, risqua fort bien d'en sauter après tous les autres bouchons.